Merci Maïlys, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, comme toute la chaîne cette semaine, nous parlons d'explorateurs dans la compagnie des auteurs, avec aujourd'hui une émission consacrée à Jules Verne et diffusée une première fois le 26 avril 2016. Nous la devons à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Anaël Fakir, Laurence Genepin, Pascaline Bonnet et David Jacubovies. Jules Verne, amateur de méridiens, d'itinéraires, de profondeurs et de reliefs, auteur de romans géographiques comme on parle de romans historiques, admiré par Julien Gracq, géographe de profession, mais surtout grand amateur de cartes et de pays inventés. Bref, Jules Verne est l'homme du départ, qu'il soit imaginaire ou non, qu'il ait lieu dans son cabinet de travail ou sur son bateau, le Saint-Michel. Ce sont ces voyages qui vont constituer notre fil rouge aujourd'hui autour de l'édition du Voyage au centre de la Terre dans la collection de la Pléiade par mon invité d'aujourd'hui, Jean-Luc Steinmetz, universitaire qui avait déjà établi l'édition des œuvres complètes de L'Autre et Amont en 2009 et qui se penche depuis quelques années sur Jules Verne, ce romancier dont l'ambition était de dire toute la Terre, de saisir le monde dans son ampleur et sa richesse. Deux volumes des Voyages extraordinaires avaient déjà paru en 2011 sous sa direction, avec notamment 20 milieux sous les mers et Les enfants du capitaine Grant. Et depuis, outre donc le voyage au centre de la Terre, c'est aussi De la Terre à la Lune, Autour de la Lune et Le testament d'un excentrique qui ont trouvé leur place dans la bien connue collection aux rayures dorées. Voilà pour la marche d'approche, nous allons pouvoir commencer l'ascension.
Qu'est-ce que vous pensez alors de ces hommes qui vont se promener dans le cosmos?
On change aucun intérêt.
C'est le côté trop scientifique de ça, peut-être qui vous...
Ah, pas du tout. Il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Il y a une mise au point très exacte, une mise au point mathématique très exacte, mais il n'y a rien de scientifique dans tout ça. On ne va jamais aller se balader, vous n'irez jamais vous balader dans la Lune, donc croyez-moi. Ni personne, ni même vos enfants, ni les enfants de vos petits-enfants. Personne n'ira jamais ailleurs que sur la Terre. D'abord, ça n'est pas possible, et ensuite, ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable parce que nous ne sommes pas faits pour ça, nous ne sommes pas organisés pour ça. Regardez, par exemple, un cosmonaute qui part. Vous avez vu cette extraordinaire combinaison lacée de tous les côtés, cette espèce d'énorme casque autour de la tête avec des hublots pour voir, cette espèce de truc dans lequel il est impossible qu'il accomplisse les gestes ordinaires de la vie. Or, c'est dans cet appareil qu'il faudra aller là-haut. Vous savez, cette espèce d'obus qu'on tire sur la Lune dans Jules Verne est mille fois plus sympathique que la fusée, parce qu'on sent bien que c'est pas vrai. Il a fallu creuser un canon dans la Terre, il a fallu orienter la Terre vers la Lune, c'est beaucoup plus rigolo.
Et c'est Jean Giono qui ouvre cette compagnie des auteurs. Bonjour Jean-Luc Steinmetz.
Bonjour, je ne connaissais pas cette intervention de Giono qui peut nous faire sourire un peu aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est bien de sourire quand on évoque Jules Verne quand même.
Oui, oui, oui. Il n'est pas tout à fait drôle, mais il y a quelques personnages comiques et il y a de l'ironie et de l'humour. On aura l'occasion d'en parler à propos de Voyage au centre de la Terre.
Justement. J'espère, mais c'est vrai que lui était parfois un peu rigide. Alors, vous-même, vous n'avez pas pu accomplir aujourd'hui l'extraordinaire voyage qui vous aurait conduit de Caen jusqu'à Paris pour venir nous voir ici, dans ce studio à la Maison de la Radio. C'est à cause de la grève de la SNCF, mais grâce à la technique moderne, eh bien, nous allons pouvoir nous parler quand même grâce au duplex. Est-ce que c'est un mode de communication que Jules Verne avait envisagé, Jean-Luc Steinmetz?
Oh, je crois qu'il avait envisagé beaucoup de choses, mais évidemment, il pensait aussi à des communications de cet ordre. On voit ça tardivement hein, dans un ouvrage qui s'appelle, dans un roman qui s'appelle Le Château des Carpates. Voilà.
Mais voilà, la radio ou le duplex?
Pardon?
La radio?
Ah, le duplex,
ou le duplex?
Non, 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 non. Je dois vous dire que d'ailleurs le duplex crée une situation particulière auquel vous êtes habitué parfois, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas, et ça me gêne un peu, hein, de qu'il n'y ait pas cette confrontation, mais en même temps, voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui.
Et tout passe par la parole et pas par les yeux, donc ça rend les choses effectivement plus compliquées. Alors on va parler avec vous des voyages extraordinaires qui sont, comme nous dit Giono, beaucoup plus drôles dans les livres que dans la réalité. C'est à l'occasion, je le disais, de la parution de ce deuxième volume Jules Verne en Pléiade. C'est assez tardif, Jean-Luc Steinmetz, parce que le premier volume, finalement, n'a que 2 ans, et donc il a fallu attendre plus de 100 ans pour que Jules Verne entre dans la Pléiade.
Oui, mais il y a des raisons pour ça. Il fallait que on le considérât comme un auteur qui puisse se figurer parmi les grands, et malheureusement pour lui, on le considère encore comme un auteur pour les adolescents, hein. Mais ça, c'était un petit peu la règle du jeu que lui avait fixé son éditeur Hetzel. Il faut dire que avant qu'il rencontre Hetzel, il avait cependant écrit Le Voyage en l'air, c'est-à-dire 5 semaines en ballon, et que c'est à partir de ça qu'ils entrent en contact et que va se mettre en forme le projet des voyages extraordinaires. Il faudra quand même 3 ouvrages pour qu'il y ait la conception, le concept de voyage extraordinaire qui va être exposé dans Les Aventures du Capitaine Atterras.
Mais alors, les voyages extraordinaires...
Préface des Aventures du Capitaine Atterras.
Les voyages extraordinaires, ça n'est pas toute l'œuvre de Jules Verne, Jean-Luc Steinmetz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette espèce de bannière des voyages extraordinaires et qu'est-ce que ça recouvre ?
Ça, la question paraît simple et en même temps, elle est sûrement assez difficile pour qu'on y trouve une réponse exacte. Il est sûr que, comme vous le savez, il y a toute une période de Jules Verne, auteur de théâtre, et puis il y a un Jules Verne qui s'exerce dans des nouvelles, des textes, petits textes fantastiques, publiés dans le Musée des Familles, et puis il en vient à écrire 5 semaines en ballon, mais cela vient très certainement des fréquentations qu'il a à l'époque, et notamment la fréquentation qu'il a de Nadar. Alors, Le Voyage extraordinaire a aussi comme précurseur, si l'on peut dire, l'une des grandes admirations littéraires de Jules Verne, à savoir Edgar Poe, qui est le seul auteur sur lequel il est publié une étude d'envergure.
Et alors, ces voyages extraordinaires, Jean-Luc Steinmetz, ils sont tous caractérisés par leur iconique couverture. Et en préparant cette émission, je suis retombé donc sur ces couvertures. Et ce qui est étonnant, c'est que le mot, le titre « Voyage extraordinaire » étant très gros, ensuite Jules Verne est en caractère assez moyen, et en assez petit, voire en tout petit, il y a le titre du livre. Est-ce que ça signifie que ce qui compte au fond, et peut-être dans l'esprit d'Hetzel en particulier, c'est la collection ? Est-ce que ça signifie que tous les livres sont en fait presque un seul grand livre qui serait ce voyage extraordinaire ? Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Mais l'hypothèse que vous formulez est intéressante à considérer. Hetzel, n'est-ce pas, est un grand éditeur, hein, qui a publié Hugo, qui a publié Stendhal, qui a publié Balzac. Mais c'est quelqu'un qui, en tant que grand éditeur et écrivain aussi, a une idée éditoriale précise, hein, et commerciale précise. Et donc, il s'agit vraiment, en accord avec Verne, de lancer une collection, une suite de livres, mais on ne peut pas dire que le projet concernait un certain nombre de livres, n'est-ce pas ? C'était un projet ouvert à l'infini. En fin de compte, au résultat final, il y a 62 livres et un certain nombre de nouvelles.
Mais pour vous,
mais,
ça constitue un seul grand livre ?
Le projet de Jules Verne, c'était de découvrir... De parler du monde entier, et d'un point de vue plutôt géographique. Alors, l'extraordinaire, évidemment, par un sens de l'anticipation qu'il avait et un souci scientifique, s'est greffé là-dessus, ce qui donne ces livres si caractéristiques. qui sont d'ailleurs en rapport avec le magasin d'éducation et de récréation fondé par Hetzel, par Jean Massé et par Jules Verne lui-même. Donc il y a là toute une chaîne éditoriale qui demande à être pensée avec des publications en revue d'abord, puis en livre in 18, puis en livre illustré, in folio, en in octavo.
Mais voilà. je reviens à mon interrogation. Est-ce que pour vous, Jules Verne, c'est une grande œuvre qui est au fond une œuvre assez unie avec des épisodes qui seraient les différents livres des Voyages extraordinaires?
Je la vois comme un ensemble qui a été formé malgré lui par sa mort, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il s'arrête, mais je crois qu'il y a une ambition chez lui qui est de parler de l'ensemble de la Terre et à l'occasion de la Lune, n'est-ce pas, ou d'échapper vers d'autres planètes. Mais c'est rare chez lui, ça relèverait de l'ordre de la science-fiction. Donc moi je le considère sous forme d'un ensemble, très varié et dont maintenant nous pouvons disposer à notre guise, si bien qu'il y a des romans connus, il y en a d'autres beaucoup plus ignorés. Et c'est ce dont a voulu témoigner aussi notre édition, cette troisième édition, quand nous mettons le testament d'un excentrique, hein, avec trois autres livres beaucoup plus connus, à savoir Le Voyage au centre de la Terre et les deux livres lunaires.
Alors parlons-en.
J'ai répondu à votre question.
Vous avez parfaitement
répondu.
Vous avez
une idée.
Parlons-en justement, Jean-Luc Steinmetz. C'est vrai que c'est difficile de se parler à comme ça des centaines de kilomètres. Ce voyage au centre de la Terre, ce deuxième volume de la Pléiade, pour vous, c'est le commencement des commencements. Vous dites même que c'est la préhistoire pour Jules Verne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par là?
Écoutez, Jules Verne, évidemment, ambitionne de parler de la Terre. Son premier livre, c'est 5 semaines en ballon, et le second, en même temps il y a d'ailleurs la rédaction des aventures du capitaine Hatteras, mais son second livre, ça va être Le Voyage au centre de la Terre. Donc c'est comme s'il voulait descendre dans les profondeurs avant d'explorer systématiquement, assez systématiquement, les surfaces. Et quand on descend dans les profondeurs, et ben on descend, on trouve l'humanité, hein, enfin l'humanité. On trouve la profondeur de notre vie, la profondeur préhistorique. Hein. C'est ça que va atteindre le voyage au centre de la Terre, avec certaines hésitations d'ailleurs, puisqu'il y a une édition en 1864, et puis il y a une nouvelle édition, nouvelle publication en 1867, et dans cette publication, il y a deux chapitres ajoutés où on découvre, ou plutôt on entrevoit, comme s'il existait l'ancêtre primordial, hein, sous la forme d'une espèce de berger, de protée des profondeurs avec un troupeau de mastodontes. Mais les trois personnages qui sont descendus au centre de la Terre, enfin pas tout à fait au centre, ne font que l'entrevoir. Ça, Jules Verne nous montre bien qu'il y a, peut-être un interdit ou une impossibilité, mais en même temps, c'est le point fort, n'est-ce pas? C'est le point ultime de ce voyage. Après quoi, comme vous le savez, eh bien, les trois voyageurs subterranéens seront propulsés par un phénomène volcanique assez incroyable et aboutiront sur les pentes du Stromboli en éruption.
Alors ne racontez pas déjà la fin, alors que nous en sommes qu'au début de l'intrigue et au moment où Axel, perdu seul au fond du cratère, se demande comment il va pouvoir en sortir.
Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol. Que ce roc me sembla desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau, car enfin il n'était plus là? Comment revenir? Des traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot. Perdu. Oui. Perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je puis y parvenir. Hambourg, la maison de Königstrasse, ma pauvre Graben, tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, Monsieur Fredriksson, le Sneffels. Je me dis que si dans ma position je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons? « Oh, mon oncle !» m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Quand je me vis en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeai au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connue qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. J'avais pour 3 jours de vivre et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre? Monter, évidemment, monter toujours.
Un extrait lu par Guillaume Gallienne, suivi d'une musique de Pierre Henry, qui est un hommage à Jules Verne, un hommage composé en 2005, 100 ans après la mort du grand écrivain Jean-Luc Steinmetz. Ce qui est étonnant quand même dans ce livre, c'est que le personnage principal, le professeur, est un Allemand. Alors pourquoi est-il allemand? Première question. Et deuxième question, pourquoi y a-t-il au fond si peu de romans de Jules Verne qui se passent réellement en France?
Oui, alors pourquoi est-il allemand? Eh bien, c'est parce que Jules Verne va se servir pour écrire ce roman d'un voyage qu'il a fait en Scandinavie, et aussi bien à Hambourg. Et donc ce sont des lieux dont il va se servir pour la première partie de son roman. Non pas qu'il soit allé en Islande, mais enfin, il peut donner quelques renseignements sur les sites traversés. Car il y a un très long préambule dans ce voyage au centre de la Terre. La deuxième question, vous m'avez parlé de la rareté.
Nationalité.
Oui, la rareté des romans qui se passaient en France. C'est sans doute que c'est trop près, n'est-ce pas? On pourrait dire que c'est trop près. Et il y a chez Jules Verne une grande admiration pour les Anglais et les Américains. Donc c'est plutôt eux qu'il va montrer en tant qu'explorateur. Mais il y a quelques Français quand même, comme dans 20 milieux sous les mers. Hein, c'est celui qui raconte les événements qui se passent, la rencontre avec Nemo, etc. Quelques personnages français, mais une majorité de personnages anglo-saxons. Hein, et cela a un rapport direct avec son admiration et pour la littérature anglaise et pour ses explorateurs hein, qui étaient en grande partie à cette époque-là anglais ou américains.
D'ailleurs,
il même avait fait le voyage en Amérique sur le Great Eastern. Et
il admirait beaucoup
paraît très souvent dans
les États-Unis.
Dans les aventures du capitaine Atterras, donc publié en même temps que Voyage au centre de la Terre, le personnage principal est donc un Anglais, et c'est oui. très important dans l'histoire parce que il souhaite absolument que la découverte du pôle, qui est effectivement le but de son expédition, soit réalisée par un Anglais. Est-ce qu'il y a un côté nationaliste justement un peu à l'envers, puisque c'est un Français qui écrit le livre? Mais comment vous interprétez quand même ce rapport là au drapeau au fond, qu'a Jules Verne?
Oui, Jules Verne est un républicain bon teint et par la suite, vous savez qu'il sera élu au conseil municipal d'Amiens. Alors, il est en rapport aussi avec ce milieu de d'Hetzel, qui est également républicain, mais qui réprouve tout à fait les communards. Quant au rapport avec le colonialisme, eh bien, je ne sais pas s'il s'en rend compte absolument à son époque. Il est sûr qu'il est anti-esclavagiste, hein. Un livre comme Nord contre Sud le prouve, et il est surtout à l'écoute des minorités, des peuples qui sont opprimés et qui veulent se soulever. C'est ce qu'on voit dans le très curieux personnage et très attirant personnage du capitaine Nemo.
Mais hein, peut-être
on connaît pas très bien l'origine du capitaine Nemo.
Peut-être pas à l'abri tout de même de quelques préjugés raciaux tout de même.
Oui, c'était. Mais les Noirs ne sont pas toujours traités comme la plupart des gens en France les considéraient à cette époque-là, n'est-ce pas?
Alors, les personnages de ce voyage au centre de la Terre, on a commencé à parler du grand savant Lidenbrock, qui est quand même quelqu'un à la fois de ridicule et de grandiose. On en fait une description dans le livre, c'est par la voix de son neveu Axel qui fait le voyage avec lui, qui dit qu'il est grand, maigre, d'une santé de fer. Est-ce que vous pouvez nous parler de la personnalité de ce personnage Lidenbrock et nous dire en quoi il est un personnage vernien qu'on pourrait rapprocher d'autres personnages verniens comme Nemo par exemple? Est-ce qu'on peut tirer comme ça un peu des généralités sur ce que c'est qu'un grand personnage vernien?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un grand personnage vernien. C'est-à-dire, parmi les personnages verniens, il y a des héros comme Nemo, comme Strogoff, mais lui figure plutôt parmi les excentriques. Et ça vient de sa propre sensibilité et également d'Edgar Poe, n'est-ce pas? Donc, il y a cet excentrique, il y a dans Les Enfants du Capitaine Grant aussi la figure tout à fait remarquable et risible de Paganel, qui, semble-t-il, aurait inspiré le tournesol d'Hergé. Donc, vous voyez, il y a les héros purs et évidemment qui ne présentent rien de ridicule, qui sont hautains, altiers, parfois réservés. Et puis alors, il y a des individus tout à fait étonnants et dont la conduite peut surprendre et peut prêter à rire, mais parfois elle peut surprendre tout simplement. Le meilleur exemple en est dans Michel Ardan, et qui s'inspire du photographe, du caricaturiste, l'illustre Nadar.
Mais c'est un inadapté quand même, ce personnage, Lidenbrock. On ne sait pas s'il a des sentiments d'empathie envers les gens. Il est sans cesse dans la science. Il est quand même d'une personnalité assez difficile. Il y a peut-être simplement un moment dans le roman où on sent qu'il prend un peu pitié de son neveu Axel, qu'il traîne quand même dans des endroits assez effrayants, le centre de la Terre, qu'il perd, comme on l'a entendu à l'instant. Donc ce personnage-là, quand même, il est intéressant.
Ah ben oui, je n'ai pas dit qu'il n'était pas intéressant. J'ai dit que son excentricité le recommandait même à l'attention. Mais évidemment, la plupart des personnages de Jules Verne sont des personnages assez entiers et il ne faut pas attendre de sa part une réflexion psychologique. Ça ne l'intéresse pas particulièrement. Il voit agir les gens, il y a des communications entre ces gens, par la parole, les dialogues, mais c'est sûr que certains individus nous paraissent tout à fait surprenants. Donc c'est le cas de cet excentrique. Curieusement d'ailleurs, cet excentrique, c'est lui qui est fasciné par le centre de la Terre et qui vit dans un monde, c'est vrai, un monde assez idéal, qui est le monde de sa minéralogie et des savants qui ont pu se pencher sur les origines de la Terre. Donc il reste dans sa sphère, et lorsqu'on découvre le message inconnu qui permet d'atteindre le centre de la Terre, eh bien, évidemment, il se précipite sur cette aubaine et il a une conviction folle. Il entraîne Axel, qui d'ailleurs, dans la dernière partie du roman, sera aussi enragé que lui pour aller plus loin.
Alors retournons voir justement où il en est, Axel, qu'on a laissé perdu à quelques kilomètres sous la croûte terrestre.
Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Quelques secondes, des siècles se passèrent. Et enfin, ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel ! Axel, est-ce toi ?»«
Oui, oui, » répondis-je.
Et je compris que puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver à lui si les forces ne me trahissaient pas. Je me levai donc, la pente était assez rapide, je me laissai glisser. Bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup le terrain manqua sous mes pieds, je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance.
Un choix de musique que nous devons à notre réalisatrice d'aujourd'hui, Anna El-Fakri. C'est toujours Pierre Boulez. C'est toujours Pierre-Henri. Jean-Luc Steinmetz, ça va, Axel a l'air de s'en sortir finalement. C'est le deuxième personnage très important de ce roman et il a une fonction qui est une fonction aussi narrative, c'est-à-dire que autant le professeur manque d'empathie, autant il paraît étranger à ce que nous sommes, autant Axel, lui, il tient de nous et nous partageons ses étonnements, nous partageons ses stupéfactions et donc il est là finalement pour nous retenir en tant que lecteur.
Oui, sûrement, c'est lui qui fait le lien entre le lecteur et ce qui est dit. Donc c'est le narrateur qui tient un journal, enfin qui tient une sorte qui fait la rédaction de ce qui se passe et qui, à des moments cruciaux, tient même un journal. Ça, on voit ça à plusieurs reprises chez Jules Verne, ce qui nous plonge d'autant plus dans l'action. Alors, cet Axel, eh bien, il a des qualités bourgeoises, si on peut dire. Une autre chose chez lui, c'est que on s'aperçoit qu'il a quand même une propension au rêve, à la rêverie, et ça n'est pas une nature si ordinaire qu'on le croit. Donc, au centre du livre aussi, il y a une sorte de rêverie qui nous renvoie au début de l'histoire de la Terre, au début de l'histoire de l'humanité.
Mais c'est quand même beaucoup lui qui fait que le roman est passionnant, notamment dans la dynamique au fond entre ces deux personnages, parce que ils sont totalement opposés et parce qu'ils sont opposés, cela crée des situations humoristiques et des situations qui nous intéressent en tant que lecteur. Et là, on se rend compte effectivement de la technique, de la maîtrise de Jules Verne, alors que c'est l'un des premier roman, on l'a dit, important de Jules Verne, de sa technique presque de scénariste, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, de toute façon, c'est quelqu'un qui avait toute une expérience du théâtre, donc une expérience du dialogue. Et puis là, on s'aperçoit que d'autres éléments interviennent, mais c'est un parfait artisan, un homme qui connaît fort bien la composition d'écriture. Le style, évidemment... à une espèce de platitude, on pourra en reparler d'ailleurs, parce que cette platitude n'est pas nécessairement négative, mais il est maître dans la composition, dans la combinaison de ses récits, de ses romans, et beaucoup ont admiré ça chez lui.
Jean-Luc Steinmetz, vous restez avec nous, mais je vous propose d'assister à une acrobatie technique qui ne nous fait plus grand-chose aujourd'hui, mais qui aurait peut-être intéressé Jules Verne. J'ai nommé rien moins que le multiplex. Car nous retrouvons aujourd'hui Olivier Mauny en direct de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler en quelque sorte de comment on passe à table.
Oui Mathieu, même si l'heure se prête plus, je dois le reconnaître, aux siestes digestives qu'au menu, fût-il littéraire, j'ai souhaité vous emmener en balade sur les rivages où la littérature côtoie la gastronomie. Ceci alors que plusieurs publications ces derniers jours relèvent de ce thème, et peut-être aussi en écoutant la semaine dernière vos émissions consacrées à Karen Blixen, qui m'ont rappelé que la baronne danoise est l'auteur d'un des plus beaux textes qui soit sur les joies de la cuisine, Le Festin de Babette.
Mais oui, qui est peut-être l'un des premiers contes portant sur la cuisine d'ailleurs.
L'un des premiers de l'époque moderne, oui, du XXe siècle en tout cas, sans aucun doute. Même si Colette a écrit aussi des choses très belles sur la cuisine, et l'un des premiers assurément à se poser ainsi la question de la table comme vecteur de civilisation. À la même époque toutefois, je voudrais citer deux autres livres. Le premier, le livre de cuisine d'Alice Toklas, publié en France chez Minuit, dans lequel celle qui était alors la compagne de Gertrude Stein raconte ses soirées parisiennes ou à la campagne avec Balmain, la princesse de Rouen ou Picasso, et perçoit l'art de la table comme la clé de sa compréhension de la France. Le deuxième livre, plus beau encore à mon avis, biographie sentimentale de l'huître, publié en France au Rocher, de l'américaine M.F.K. Fisher, la poète des appétits, comme l'a surnommé joliment, je trouve, John Updike. C'est une brillante autobiographie gastronomique, un « De quoi l'huître est-elle le nom ?», si j'ose dire, infiniment troublant et érudit.
Eh oui. Alors ces livres de cuisine, ce ne sont pas pour autant, ou en tout cas pas simplement, des livres de recettes, ce sont des œuvres de littérature. Qu'est-ce qui en fait, justement, des livres de littérature ?
Peut-être justement leur ressort secret, leur thème caché. Dans les livres auxquels je pense, j'en ai repéré deux. Il y en aurait sans doute d'autres en y réfléchissant plus longuement. Le premier, c'est l'enfance, bien sûr. Puisque nous parlions d'huîtres, tiens. Comment ne pas évoquer Chantal Thomas, qui a beaucoup écrit à son propos, et qui, avec L'île flottante, très court texte sur ses souvenirs d'enfance sur le bassin d'Arcachon, et son amitié avec une petite fille avec laquelle elle n'acceptait, par fascination esthétique, de ne partager que des nourritures de couleur blanche, a livré comme une espèce de chef-d'œuvre. C'est dans la petite bibliothèque du Mercure de France. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là dans le beau récit mémoriel de Jean-Louis Monoury, scène de famille, scène comme la scène du Christ, n'est-ce pas, que les éditions Autrement seraient bien inspirées de rééditer. Deuxième thème, le récit de formation en quelque sorte. C'est ce dont il est question dans Un chemin de table, le beau livre de Maïlys de Kerangal qui vient de paraître au seuil et qui accompagne un jeune cuisinier autodidacte dans la découverte des tours et détours de son métier. C'était également quelque chose de cet ordre-là, d'ailleurs, qui servait de moteur romanesque à Raymond Guérin, auteur bordelais, pour son glaçant L'Apprenti, ou plus près de nous, au New-Yorkais Bill Buford, qui dans l'admirable Chaud brûlant raconte son expérience dans les cuisines du restaurant du célèbre chef italo-américain Mario Batali.
Et alors aujourd'hui, quels seraient les livres qui feraient, outre celui de Maïlys de Kerangal, rimer cuisine, littérature, gastronomie, ensemble ?
Ben, je crois qu'il y en a au moins trois aux devantures et dans les vitrines des librairies, pardon, ces temps-ci. Tout d'abord, le numéro de printemps de l'indispensable et toujours très riche magazine MOOC, on dit également, mais c'est pas très joli, feuilleton, sous-titré cette fois-ci « Cuisine et dépendance ». Que l'on me pardonne cette navrante analogie, mais le menu littéraire qui y est servi est authentiquement 3 étoiles. Feuilleton se consacre à faire connaître de grands textes de narrative non-fiction, comme on dit en bon français, ou de journalisme narratif si vous préférez, et pour ne citer que ceux que consacre Eri De Luca à la parmesane d'aubergine, ou Ted Conover à un abattoir du Nebraska, sont absolument magnifiques. Autre livre important, L'Enchanteur Chaque jour est un festin, publié à la Martinière, signé de l'immense et regretté James Salter, que je tiens pour peut-être l'écrivain américain le plus important de la deuxième partie du XXe siècle, et de sa femme Kay, manuel de savoir vivre, aimer et cuisiner ensemble. Enfin, permettez-moi un petit coup de cœur final pour la publication le 4 mai prochain, ou toujours très précieuse édition Séguier, de l'autobiographie gastronomique d'Ugo Tognazzi, dans laquelle, entre recettes et anecdotes, on retrouve toute la verve de l'acteur de la grande bouffe. Et maintenant, Mathieu, et à votre invité, bon appétit.
Eh bien, bon appétit entre Bordeaux et Caen, c'est vrai que ça fait envie. Merci beaucoup Olivier Mauny, on vous retrouve ici mardi prochain et dans l'intervalle, comme d'habitude, dans les colonnes du journal Sud-Ouest.
Aller à la Lune, ce n'est pas important. C'est une chose, comment dirais-je, mathématique. Si aujourd'hui la machine n'est pas faite pour aller, c'est une question du temps. Demain, elle sera faite. Mais aller à la Lune, comme par exemple le voyage au centre de la Terre par Jules Verne, est une chose, n'est-ce pas, qu'aucune machine ne peut le faire, rien que l'imagination et les rêves.
Ossip Zadkine dans cette archive de 1956, c'était bien avant que Neil Armstrong ne pose son pied sur le satellite de la Terre. Vous êtes toujours avec la compagnie des auteurs, la seule compagnie qui vous transporte gratuitement de la Terre à la Lune, et c'est sur France Culture.
Vous êtes Barbicane, lui demanda Michel Ardan dès qu'ils furent seuls et du ton dont il eut parlé à un ami de 20 ans. Oui, répondit le président du Gun Club. Eh bien, bonjour Barbicane. Comment cela va-t-il? Très bien? Allons, tant mieux, tant mieux. Ainsi, dit Barbicane, sans autre entrée en matière, vous êtes décidé à partir? Absolument décidé. Rien ne vous arrêtera? Rien. Avez-vous modifié votre projectile ainsi que l'indiquait ma dépêche? J'attendais votre arrivée. Mais, demanda Barbicane en insistant de nouveau, vous avez bien réfléchi? Réfléchi? Est-ce que j'ai du temps à perdre? Je trouve l'occasion d'aller faire un tour dans la Lune. J'en profite et voilà tout. Il me semble que cela ne mérite pas tant de réflexion. Barbicane dévorait du regard cet homme qui parlait de son projet de voyage avec une légèreté, une insouciance si complète et une si parfaite absence d'inquiétude. Mais au moins, lui dit-il, vous avez un plan, des moyens d'exécution. Excellent, mon cher Barbicane. Mais permettez-moi de vous faire une observation. J'aime autant raconter mon histoire une bonne fois à tout le monde et qu'il n'en soit plus question. Cela évitera des redites. Donc, sauf meilleur avis, convoquez vos amis, vos collègues, toute la ville, toute la Floride, toute l'Amérique, si vous voulez. Et demain, je serai prêt à développer mes moyens comme à répondre aux objections, quelles qu'elles soient. Soyez tranquille. Je les attendrai de pied ferme. Cela vous va-t-il? Cela me va, répondit Barbicane. Sur ce, le président sortit de la cabine et fit part à la foule de la proposition de Michel Ardan. Ses paroles furent accueillies avec des trépignements et des grognements de joie. Cela coupait court à toute difficulté. Le lendemain, chacun pourrait contempler à son aise le héros européen. Cependant, certains spectateurs des plus entêtés ne voulurent pas quitter le pont de l'Atlanta. Ils passèrent la nuit à bord. Entre autres, J.T. Maston avait vissé son crochet dans la lisse de la dunette et il aurait fallu un cabestan pour l'en arracher. « C'est un héros !» s'écriait-il sur tous les tons. « Et nous ne sommes que des femmelettes auprès de cet Européen-là » Quant au président, après avoir convié les visiteurs à se retirer, il rentra dans la cabine du passager et il ne la quitta qu'au moment où la cloche du steamer sonna le quart de minuit. Mais alors les deux rivaux en popularité se serraient chaleureusement la main et Michel Ardan tutoyait le président Barbicane.
Jean-Luc Steinmetz, on a laissé un petit peu en longueur cet extrait de « De la Terre à la Lune » parce que ce n'est pas sur une phrase qu'on se rend compte du style de Jules Verne, c'est plutôt sur la longue durée. Vous dites que son style est un petit peu plat, mais que c'est ce qui fait peut-être son charme. Expliquez-nous un petit peu ça.
Oui, je crois qu'il a une façon d'écrire qui est très classique. Ne nous référons pas au grand classique du XVIIe siècle, mais il a une grande précision dans l'expression. Cette précision, d'ailleurs, est volontaire parce qu'il doit décrire de façon exacte des quantités de phénomènes, mais également la façon dont se comportent les gens. Et il a, d'autre part, un art du dialogue. Et je pense que dans une période qui est la période des naturalistes ou la période des auteurs de style décadent, eh bien, il se distingue par ce qu'on pourrait penser être une platitude, mais qui est de l'ordre de l'exactitude, de la clarté, de la transparence, pour expliquer, bien sûr, des phénomènes scientifiques, mais aussi le rapport entre les hommes. Et cela demandait à être inventorié à son époque, où on avait peut-être négligé ce type de relation simple ou alors scientifique, industriel.
Oui, mais lui considérait, Jean-Luc Steinmetz, pardonnez-moi, il considérait qu'il n'était pas assez reconnu pour ce qu'il mettait comme étant le principal intérêt de ses livres, c'est-à-dire son style. Or, vous venez de nous l'expliquer, ce style, il est quand même assez transparent.
Oui, mais quand nous lisons certains auteurs contemporains, nous avons affaire à ce style qui est peut-être sans effet particulier. Nous confondons trop souvent la littérature avec des effets considérables, et je crois que chez Jules Verne, cette matité, ce que j'appelle aussi la ligne claire en me référant cette fois au dessin d'Hergé, est une qualité. C'est une qualité proprement moderne, mais c'est une qualité que l'on trouvera parfois chez un auteur comme Lautréamont et qu'on trouve aujourd'hui chez un auteur comme Houellebecq, n'est-ce pas ? Me semble-t-il. Tout ça, c'est une question de jugement personnel que je me permets de dire dans ma préface, mais tout cela demande peut-être à être nuancé ou contredit. L'intérêt, c'est qu'il y ait une discussion.
Alors, ce livre de la Terre à la Lune, est-ce qu'il constitue pour vous une évolution très importante par rapport au premier livre dont on a parlé, Le Voyage au centre de la Terre ? Est-ce qu'ils sont tous les deux frères ? Est-ce qu'ils se complètent ?
Non, je ne pense pas. Simplement, ils sont proches dans la rédaction, à l'époque de rédaction, et puis dans l'ambition de montrer non pas la surface de la Terre, comme on l'avait dit tout à l'heure, et qui est de l'ordre du projet global, c'est le cas de le dire, de Jules Verne, mais on va d'abord dans les profondeurs, et ensuite, eh bien, on explore notre satellite, on explore l'espace. Et puis après, l'espace sera déblayé, si l'on peut dire. On aura pris certaines mesures autour du globe, de la Terre même, et on pourra parcourir à ce moment-là la Terre, les océans, etc.
Alors l'histoire, les auditeurs l'ont peut-être en tête, mais c'est à l'issue de la guerre de sécession, au sein du Gun Club, qui est donc un club américain centré sur les armes à feu, un club qui, ne fonctionne plus très bien, n'impressionne plus personne. Quelqu'un a l'idée d'envoyer un obus sur la Lune et un Français, entendant parler de cela, demande s'il ne peut pas tout simplement rentrer dans le projectile. C'est quand même un récit qui part d'un thème assez récurrent chez Jules Verne, qui part d'un club. Les clubs, il y en a partout dans Jules Verne. Le Gun Club, l'Eccentric Club, le Tour du Monde en 80 jours, c'est aussi un club qui, au départ, lance un pari à Phileas Fogg. Comment est-ce que vous expliquez qu'au départ, ce soit toujours un club d'hommes, comme ça, qui soit le départ de ces aventures?
Eh bien ça, c'est l'aspect de Jules Verne, un aspect intéressant, qui est l'aspect de la sociabilité chez Jules Verne. Donc il montre des individus, mais la plupart de ces individus sont reliés non pas tant à des familles, mais à des ensembles humains. Des ensembles qui peuvent être réduits à des clubs, ce que vous venez de montrer, ou alors ça va beaucoup plus loin, ce sont des sociétés humaines. C'est son côté sociable, n'est-ce pas, et intéressé par la société, par le grand nombre, par les foules. Il est à une époque où on découvre les foules et où on fait agir et les foules, ou des ensembles moindres que les foules. Ça, on retrouve ça chez Baudelaire. Alors, le Gun Club, ce club d'artilleurs, eh bien, ça se retrouve par la suite, mais c'est la première fois qu'il nous montre ça, n'est-ce pas, puisque c'est un de ses premiers livres. Alors, on retrouvera ça dans le Testament d'un excentrique, par exemple, et dans le Tour du Monde en 80 jours. C'est un lieu de familiarité, de sociabilité, où les hommes parlent, n'est-ce pas? Les hommes dans le fumoir, les femmes dans le boudoir, c'était comme ça à l'époque, et où ils échangent des idées, et parfois des idées folles ou fantaisistes.
Et c'est un endroit qui lui plaît, parce que Verne participe, malgré lui, au mouvement des idées de la révolution copernicienne, en passant par le darwinisme et la psychanalyse, et tout cela, j'imagine que c'est de... cela qu'on parle dans les clubs.
Ah, ce n'est pas évident. C'est moi qui ai, dans ma préface, indiqué ces trois illusions narcissiques autour desquelles l'homme s'est constitué, n'est-ce pas ?
Donc, vous pouvez nous redire pourquoi c'est narcissique ?
Là, ce n'est pas évident que dans les clubs, on parlait de psychanalyse, parce que la psychanalyse arrive beaucoup plus tard. Le darwinisme, absolument. Quant à la révolution copernicienne, oui, aussi. Hein.
Pourquoi narcissique ?
Narcissique ? Oui, eh bien, parce que, évidemment, lorsque on a tendance à se replier sur notre terre, et la révolution copernicienne nous montre l'importance du soleil. Donc là, il nous montre l'importance de la Lune, hein, de la Terre à la Lune. De la même façon, révolution darwinienne, si on peut dire, eh bien, on croit que l'homme est premier, alors qu'on s'aperçoit qu'il y aurait des ancêtres hominiens, des ancêtres simiesques. Et donc, il touche cet endroit quand il va dans le voyage au centre de la Terre. Hein. Et la troisième révolution, c'est la psychanalyse. Et la psychanalyse, alors, moi je crois que dans le voyage au centre de la Terre, mais dans beaucoup d'ouvrages de Jules Verne, eh bien il y a un certain rapport avec l'inconscient aussi. Mais un inconscient collectif beaucoup plus qu'un inconscient individuel.
Alors Jean-Luc Steinmetz, si on continue d'égrener un petit peu les thèmes qu'on retrouve non seulement dans Le Voyage au centre de la Terre, mais aussi dans la plupart des ouvrages de Jules Verne, il y a le voyage en lui-même, mais il y en a d'autres récurrents, le froid par exemple.
Oui, je ne dirais pas tellement le froid, je dirais surtout les pôles, n'est-ce pas ? Il y a véritablement l'obsession du pôle Nord et du pôle Sud, qui à son époque n'était pas conquis, n'était pas atteint, mais qu'il nous montre imaginairement comme atteint, d'une part par Hatteras et d'autre part, pour le pôle sud, par le capitaine Nemo.
Enfin, il y a quand même le froid, parce que dans Autour de la Lune, par exemple, il faut faire attention à ce que le froid n'entre pas dans le projectile sous peine d'être gelé vivant. Et le problème, d'ailleurs, va se poser quand il va falloir se débarrasser du chien mort qui s'appelle Satellite. Donc,
oui,
on a quand même froid chez Jules Verne.
Oui, oui, je ne pensais pas au voyage au centre de la Terre, ni de la Terre à la Lune à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr, il y a ces questions. Jules Verne est toujours préoccupé par la situation physique, les phénomènes physiques dans lesquels ces personnages vivent. Donc c'est la chaleur pour le voyage au centre de la Terre et le froid de la Terre à la Lune ou autour de la Lune.
Oui, parce que vous le disiez au début de cette émission, dans le voyage au centre de la Terre, ils sont les personnages expulsés à la fin par un volcan.
Oui, c'est ça. C'est ce qui paraît assez invraisemblable, ce qui est même tout à fait invraisemblable. Mais enfin, Jules Verne se donne parfois cette facilité pour s'en sortir au sens le plus immédiat du terme, et on lui pardonne, n'est-ce pas ? Ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est vrai que quand on voit ça dans un film, alors ça paraît plus problématique. Alors, je pense au film du Voyage au centre de la Terre, de Levine.
Bien entendu. Peut-être terminons cette émission, si vous le voulez bien, Jean-Luc Steinmetz, avec le dernier des ouvrages qui est dans le corpus de la Pléiade, c'est-à-dire Le Testament d'un excentrique. C'est sans doute le livre le moins connu, c'est un roman tardif. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, c'est un roman tardif, donc à ce moment-là, il n'est plus dirigé par Hetzel, qui parfois le corrige, qui parfois incline sa pensée. C'est un roman encore d'un pari, mais un pari monumental aux dimensions des États-Unis, où les personnages sont appelés à parcourir, à faire un certain nombre de parcours, selon un tirage au dé, leurs parcours sont déterminés, et ils sont déterminés sur une sorte de carte comportant 63 cases qui représentent les États-Unis, les États des États-Unis.
C'est un jeu de loi géant, c'est ça ?
Donc c'est le jeu de loi, et celui qui arrivera à la case 63, aura gagné l'héritage, puisque c'est une des conditions pour gagner l'héritage d'un milliardaire qui s'appelle Hyperbone.
Oui, et c'est un roman qui a un héritage, justement, mais un héritage littéraire très important. Queneau, Cortazar, Pérec se sont revendiqués.
Oui, un certain nombre de grands écrivains français et contemporains ont admiré cette combinatoire, et notamment les gens qui étaient liés, ceux qui étaient liés à l'Oulipo.
Pérec, qui aurait voulu écrire comme Jules Verne. C'est quand même assez étonnant.
Il admirait chez Jules Verne des choses que on ne voit pas toujours. Il admirait les listes, d'une part. Il admirait les listes et d'autre part, la combinatoire. Mais je crois qu'il aimait aussi ce style relativement mat dont je vous ai parlé.
Les chiffres.
Et, bien entendu, un jeu de l'écriture déterminé par des contraintes. Donc il voit chez Jules Verne un auteur à contraintes, et ça on pourrait en parler assez longuement. On le voit bien dans ces contraintes qu'il invente dans Le Testament d'un excentrique que je vous ai décrit d'une façon évidemment simpliste, parce que il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de complications dans ce jeu.
Oui, et puis c'est bien d'avoir aussi le petit jeu de loi qui est livré avec le volume de la Pléiade, comme ça on peut jouer aussi en même temps que les personnages du roman. Le chiffre, le cryptogramme, c'est presque aussi important que la phrase, que les lettres chez Jules Verne, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, il y a quelque chose de déterminant là. Et évidemment, dans le voyage au centre de la Terre, il y a un cryptogramme assez compliqué. Tout cela vient d'un amour de la lettre chez Jules Verne, qui aimait beaucoup faire se livrer non pas à des jeux de mots, mais à des jeux de lettres, des anagrammes. Et il tient ça de Poe, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de voir qu'il y a ce sous-langage qui détermine parfois l'action, qui détermine parfois l'intrigue. Sans qu'il y ait rien là de systématique, mais enfin, ça existe bel et bien dans des grandes œuvres de Jules Verne. L'une aussi qui est peu connue, mais qui mériterait d'être publiée, republiée, qui est la Jangada.
Donc tout
on
ça,
voit
c'est...
ça aussi dans Les Enfants du Capitaine Grant, notre première publication dans les deux premiers volumes.
Donc tout ça, c'est ce qu'il y a de caché au fond et de mystérieux chez Jules Verne. Mais évidemment, il n'y a pas que ça qui est caché et mystérieux, Jean-Luc Steinmetz.
Chez Jules Verne, comme je le suggérais tout à l'heure et comme ont vu un certain nombre de personnes, il y a, à travers le voyage, il y a toujours une dimension initiatique. Alors, vers quoi ça mène? En tout cas, ce sont des voyages de quête, hein. Et on atteint ou on n'atteint pas le lieu central, ce qu'on pourrait appeler le but, mais il faut voir que ce formidable élan, presque irrésistible, qui anime les personnages, c'est aussi ce qui se transmet au lecteur et qui rend la lecture de Verne plus ou moins irrésistible.
Et qui nous donne...
C'est difficile d'y résister.
Et qui nous donne envie d'y retourner presque immédiatement, en tout cas, dès qu'on sortira de ce studio. Merci beaucoup, Jean-Luc Steinmetz.
Merci.
Merci Jean-Luc Steinmetz, vous étiez en duplex de France Bleu à Caen. Je renvoie bien sûr aux divers volumes de la Pléiade Jules Verne, dont vous êtes l'éditeur. Cette émission a été diffusée une première fois le 26 avril 2016. Demain, nous continuons notre semaine explorateur en vous proposant de réentendre un épisode sur le romancier de l'île au trésor, j'ai nommé Stevenson. Marc Poré sera mon invité. Tout de suite, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Je est un autre, s'exclame Rimbaud dans la lettre dite du voyant. Je est un juif, dit Charles Dobzhinsky dans son dernier, tout dernier poème. Je est un juif roman, dit-il. Le juif, c'est l'autre, c'est lui. Charles Dobzhinsky est mort en 2014, il était né en Pologne en 1929. D'abord d'un arbre. Je suis né juif. En coup de vent, des broussailles s'écartaient pour me voir paraître. Je ne laissais pas de traces sur la neige. En ce temps-là, il n'y avait pas d'étoiles. Le ciel était un ventre creux. Je suis né en apnée, dans le sommeil du monde. Des arbres me montraient leurs paumes déjà trouées par la foudre. Je suis né d'un arbre, puis d'une feuille, puis d'une nervure. De plus en plus minuscule, j'avais tendance à m'éclipser, infirme dans l'infime. Mon nom tintait déjà comme une clarine au cou des chèvres. Dobzhinsky. Je n'avais pas de langue, je coulais de source. J'ourlais ma clairière. L'école. Le livre est dédicacé à Méchonic. Un jour, j'entrais dans une école où l'on étudiait la logique des brebis. Le maître m'invita à dessiner un mouton de Panurge, puis à le tondre. Avant d'être homme, on était animal, on traversait les fourrés, des épaisseurs effarées. L'enfant n'avait pas de bouche, mais une bulle où s'inscrivaient des vocables. Un jour, je rencontrai un grand oiseau qui, dans son bec, tenait mon village natal. Pour l'emporter, Dieu sait tout. J'essuyais les nuages, empoussiéré comme des vitres qui ne laissent transparaître aucune image. Dans mon lit se succédaient les pinces des judéanthropes émergeant des cauchemars, des carapaces chitineuses. On me mit sur le dos une lourde prière et l'on me dit « Prends la route, la boussole est en toi ». Allusion juif errant. Le recueil est dédicacé à Henri Méchonic et la préface est de Jean-Baptiste Parrin. Les premiers chapitres disent « D'abord d'un arbre. Juif pourquoi ? L'école, le feu du ciel, un cheval juif. Ai-je tué Jésus ? Rien que bagatelle, un juif sans religion, l'élixir de la longue vie, etc. Le feu du ciel, je voyais passer d'autres juifs, l'échine ployée, sous le même fardeau. Un dieu absent, une synagogue brûlée, défenestré ses fidèles, effeuillait en l'air les pages de son imploration. Tout juif connaît son oradour, qui peut s'appeler Kishinev. Une Torah flambée comme une torche dans un tabernacle immolé. La cendre est une imprimerie. Prométhée, sans promesse, les juifs n'ont pas volé le feu du ciel. Ils le portent dans leurs entrailles.
Merci Jacques Bonafé. Vous lisez cette semaine des extraits de poèmes de Charles Dobinsky et de son recueil « Je est un juif ».